Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'écoute d'RFI, Radio France Internationale. Il est 18h à Rome et Paris, 16h à Bamako.
Le journal en français facile.
Adrien Delgrange.
Dans ce journal du mercredi 7 mai, que vient chercher le président syrien à Paris? Ahmed El-Shara vient d'arriver au palais de l'Élysée. Il est accueilli par le président français, Emmanuel Macron. Des affrontements mortels la nuit dernière entre l'Inde et le Pakistan. Au moins 38 morts. Analyse à suivre. L'Algérie veut faire arrêter par la police l'écrivain franco-algérien qui vit en France, Kamel Daoud. Explication à suivre. Et puis enfin, la température commence à monter autour du Parc des Princes avant le début de la rencontre PSG-Arsenal dans 3 heures. Voilà pour les titres. Soyez les bienvenus. Mais tout d'abord, intéressons-nous à cette visite officielle qui interroge, voire qui suscite la controverse. Le président syrien Ahmed El-Shara est à Paris aujourd'hui. Ahmed El-Shara est reçu en ce moment au palais de l'Élysée à part le président français. L'actuel président syrien a dirigé les forces qui ont renversé le dictateur Bachar el-Assad. C'était le 8 décembre dernier. Cet homme est désormais sous pression, d'une part de sa population, mais aussi de la communauté internationale, pour qu'il puisse garantir les droits humains dans son pays. Nous sommes à présent en ligne du palais de l'Élysée avec Abla Junaidi. Abla, bonjour.
Bonjour.
Dites-nous aujourd'hui ce qu'est venu chercher Ahmed El-Shara à Paris.
Alors, il faut rappeler, Adrien, que c'est à l'invitation de la France qu'Ahmed El-Shara est à Paris. D'ailleurs, une exemption, autrement dit une autorisation spéciale, a dû être demandée à l'ONU pour permettre à l'ancien dirigeant du Front Al-Nosra, groupe toujours sous sanctions internationales, de voyager à Paris. Bien sûr, Ahmed El-Shara est en quête d'une légitimation, d'une reconnaissance de son pouvoir. La levée totale des sanctions qui ont été prises contre son prédécesseur, Bachar al-Assad, c'est un objectif toujours central pour le président syrien, qui en a besoin pour son plus grand chantier, la relance de l'économie syrienne. Mais les Européens exigent d'abord des réformes institutionnelles, un pouvoir vraiment inclusif, autre condition, la protection de toutes les composantes sociales de la Syrie, à commencer par les minorités alaouites, druzes et chrétiens notamment. On a vu dernièrement que ces membres étaient ciblés par des combattants affiliés au pouvoir. D'ailleurs, des manifestations avaient lieu cet après-midi à Paris pour interpeller sur le sort de ces minorités. Il y avait aussi un rassemblement en faveur du nouveau pouvoir. Ahmed El-Shara a réservé 2 visites à la diaspora syrienne en France. Il a rencontré César, l'homme qui a révélé, photo à l'appui, l'ampleur industrielle des crimes sous Assad. Et après l'Élysée, il ira à la rencontre des Syriens résidant en France.
Abla Junaidi au palais de l'Élysée à Paris pour RFI, les deux hommes, Ahmed El-Shara, président par intérim de la Syrie, et le président français Emmanuel Macron donneront dans la soirée une conférence de presse. Nous sommes à présent à Rome, où les portes de la chapelle Sixtine viennent de se refermer, avec à l'intérieur les 133 cardinaux venus du monde entier pour élire le prochain pape. Nous retrouvons Nicolas Rocca, l'envoyé spécial d'RFI au Vatican. Nicolas, vous venez d'assister à un cérémonial majestueux.
Dans le décor grandiose de la chapelle Pauline, au palais du Vatican, les cardinaux se sont réunis sous 2 fresques de Michel-Ange pour un moment de prière et de recueillement.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Après avoir écouté Pietro Parolin, numéro 2 du Vatican qui préside le conclave, ils se sont mis en procession pour la chapelle Sixtine. Sur un chant appelé la Litanie des Saints, avec en tête de cortège des religieux portant croix et chandeliers, les 133 cardinaux électeurs ont avancé lentement vers la salle où sera décidé le nom du futur pape. Accueillis par un chœur, ils sont entrés par ordre d'importance avant de prendre place, chacun à sa table, une feuille pour voter, d'autres pour le décompte du scrutin. Ensuite, ils ont entonné un chant appelé « Veni Creator »,« Viens Créateur », pour appeler l'Esprit Saint à les soutenir. Et puis l'un après l'autre, ils ont prêté serment, jurant de garder le secret. Une fois que le dernier cardinal a prononcé son serment, Monseigneur Diego Ravelli a annoncé, avec la formule suivante, que tous devaient sortir.
« Extra omnes,
Tous dehors, seuls restent maintenant les cardinaux et ceux qui ont juré de garder le secret. On entre désormais dans l'inconnu avec, pour seule information, la fumée qui sortira de la cheminée sur laquelle tous les yeux ici sont rivés.
Reportage RFI signé Nicolas Roca. 18h05 à Paris, c'est le pire affrontement guerrier entre l'Inde et le Pakistan depuis 20 ans. Les deux pays se sont bombardés la nuit dernière. Bilan humain encore provisoire, 26 morts côté pakistanais, 12 morts côté indien. Alors ces affrontements font suite à un attentat il y a une quinzaine de jours dans le Cachemire indien. L'Inde accuse le Pakistan d'en être à origine. Les deux pays vont-ils pour autant se lancer dans un conflit généralisé? Analyse d'Olivier Dallage, ancien journaliste à RFI et spécialiste de l'Asie du Sud.
Les Indiens disent que leurs frappes ont été calibrées pour ne pas aboutir à une escalade. Les Pakistanais vont réagir. Bien entendu, tout dépendra de la nature de la réponse. Est-ce que ça s'arrêtera là ou est-ce qu'on part dans un engrenage? C'est un peu trop tôt pour le dire. Ce qui se passe, c'est que l'opinion indienne est chauffée à blanc face à ce qu'elle considère comme l'habitude du Pakistan de soutenir le terrorisme en Inde en général et au Cachemire en particulier. Et que, pour l'instant, spécialement ce gouvernement nationaliste hindou qui a fait de sa force un argument électoral, et il y a des élections dans plusieurs États indiens dans les semaines qui viennent, on ne voit pas comment il pourrait redescendre immédiatement. Après, je crois que ni le Pakistan ni l'Inde, bien entendu, ne veulent d'un conflit à outrance, mais les risques de dérapage sont toujours là.
Et précisons qu'à l'heure actuelle, le calme semble être revenu. Aucun combat nous est rapporté à l'heure actuelle entre l'Inde et le Pakistan. Sur le continent africain, les autorités maliennes empêchent les voix dissidentes d'exister. La junte au pouvoir, dirigée par le colonel Assimi Goïta, a décidé aujourd'hui de suspendre jusqu'à nouvel ordre toute activité politique dans l'ensemble du pays. Cela concerne tous les partis et associations à caractère politique, précise le texte. Les militaires justifient cette décision pour, disent-ils, préserver l'ordre public. Il faut dire que les partis politiques maliens appellent à manifester vendredi prochain contre les militaires au pouvoir. Ils réclament notamment la tenue d'une élection présidentielle au Mali. L'Algérie qui veut arrêter Kamel Daoud. Le célèbre écrivain franco-algérien Kamel Daoud est visé par deux mandats d'arrêt internationaux émis par l'Algérie, autrement dit des ordres d'arrestation. Alors, les raisons de cette décision ne sont pas connues, mais d'après l'avocate de l'écrivain, les raisons sont liées au contenu de son dernier roman Houri. Ce livre est interdit en Algérie car il raconte les massacres commis pendant la guerre civile algérienne. Nous sommes à présent avec Amélie Beaucourt pour nous expliquer ce qu'il se passe.
Et un premier mandat d'arrêt aurait été lancé au mois de mars et un deuxième au mois de mai. L'avocate de Kamel Daoud, que nous avons contactée par téléphone, n'a pas reçu d'explication à ce sujet, mais elle y voit une volonté du pouvoir algérien de faire taire un écrivain, d'interdire sa liberté d'expression. Ces mandats d'arrêt, dont on sait peu de choses, vous l'avez dit Adrien, seraient liés, selon elle, au dernier livre de Kamel Daoud, Houri, qui parle de la décennie noire, une période sombre de l'histoire de l'Algérie. Ce livre, qui a reçu le prix Goncourt 2024 en France, lui vaut d'ailleurs d'autres problèmes avec la justice française et algérienne. Une jeune femme, survivante de ces massacres commis pendant la décennie noire, accuse l'écrivain de lui avoir volé son histoire, car le personnage principal du livre lui ressemble énormément. Cette jeune femme avait raconté ses traumatismes à une psychiatre qui est la femme de Kamel Daoud. Elle a déposé plainte en Algérie, mais aussi en France, pour atteinte à la vie privée et diffamation. L'écrivain pourrait donc être jugé à Paris dans cette affaire d'ici quelques mois.
Amélie Beaucourt, dans votre journal En Français Facile. Merci Amélie. Et puis enfin, quel est le club de football qui affrontera l'Inter Milan en finale de la Ligue des Champions le 31 mai prochain? Réponse ce soir avec le match entre le Paris Saint-Germain et Arsenal. Début de la rencontre 21h, un match à écouter en intégralité sur nos antennes. Ainsi se referme ce journal En Français Facile que vous pouvez lire et écouter à tout moment sur un site internet françaisfacile.rfi.fr. À demain pour une nouvelle édition.